RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La 16e étape du Tour de France au programme du peloton aujourd'hui, 208,5 km entre Moirans en montagne et Berne. Le Tour de France qui est pour l'instant encore sur les territoires français dans le département du Doubs et qui ensuite va rentrer en Suisse, parcourir le canton de Neuchâtel puis le canton de Fribourg pour finir dans le canton de Berne, dans cette capitale fédérale de la Confédération Helvétique. Il reste encore un tout petit peu moins de 110 km à parcourir. Fred, on va faire un nouveau point de la situation qui est inchangée depuis de longs kilomètres maintenant.
Avec toujours deux hommes en tête, deux coureurs de la même équipe, la formation belge Etix Quickstep et pas des moindres ces coureurs. Julien Alaphilippe, le français, le virevoltant français qui était échappé hier en direction de Culoz et qui a terminé cinquième de l'étape d'hier, est accompagné de l'ancien triple champion du monde du contre-la-montre, l'allemand Tony Martin. Ces deux-là sont à 110 km de l'arrivée, bientôt en Suisse. Dernier écart en faveur des deux hommes de tête, 5 minutes 20 sur le peloton, un peloton qui réagit avec les équipes Cofidis et Direct Energy pour Christophe Laporte et Brian Coquard. On pense au sprint dans le peloton, même si le final est un petit peu casse-pâte ici en direction de Berne. Sachez que les contre-attaquants qui sont au nombre de 4, le Hollandais Rosen, l'Américain Craddock, le Français Nicolas Hedet et le Norvégien Vegard Breen sont en train de lâcher prise face aux deux hommes de tête. Ils n'ont jamais réussi à revenir sur le duo Tony Martin à la Philippe. Ils sont bientôt repris par l'avant-garde du peloton. Impressionnant numéro du duo de l'équipe Etix Quickstep et de surtout, évidemment, Tony Martin. Une machine à rouler, le Panzer allemand.
Même si à l'instant même, Julien Alaphilippe tente de prendre un timide relais, mais c'est vrai, Georges Quirino sur la moto RMC, il n'amuse pas la galerie aujourd'hui, l'allemand de la formation Etix.
Oui, Julien Alaphilippe qui ne prend les relais. On a l'impression que lorsque l'on passe dans les localités, lorsqu'il y a des ralentisseurs, il offre un petit répit plutôt. On a l'impression à son collègue Tony Martin dans ce groupe de tête. Il laisse le temps à Tony Martin de vider un bidon parce qu'il fait chaud aujourd'hui sur les routes du Doubs. Pour l'instant, 30 degrés nous affiche le thermomètre. Et voilà Julien Alaphilippe qui assure ce long relais alors que l'on va rentrer dans quelques instants. En Suisse. Et un indice, Christophe, qui nous permet de savoir quand on est suiveur du Tour que la grande boucle va quitter la France, c'est que tu sais, il y a des forces de l'ordre qui devancent les coureurs pour les protéger. Il y a aujourd'hui un membre de la garde républicaine française et il y a à côté de lui un motard de la police de Neuchâtel, donc pour protéger les coureurs et notamment Tony Martin et Julien Alaphilippe qui encore une fois récupèrent des bidons auprès de leur directeur sportif David Ebramati. Ils prennent bien soin de bien s'alimenter, de bien s'hydrater les deux hommes depuis le début de leur escapade.
Voilà, la police suisse ou la gendarmerie suisse qui ne porte pas les mêmes couleurs que nos bleus traditionnels. On a vu tout à l'heure des motards suisses d'un magnifique orange plutôt hollandais hein. Et ils étaient avec de gros blousons, ils doivent avoir bien chaud.
C'est leur tenue traditionnelle, les bleus de Suisse sont en orange. 107 km de l'arrivée, on aperçoit à l'avant du peloton outre les coureurs de l'équipe Cofidis et de Direct Energy, les BMC roulés. Ça fait plusieurs kilomètres maintenant que les coéquipiers de Richie Porte et DJ Van Garderen sont à l'avant, probablement pour leur spécialiste de classique, leur franc-tireur Greg Van Avermaet qui vise une deuxième victoire d'étape, qui joue dans le même registre que Peter Sagan, on en reparlera quand on évoquera les paris, qui est le grandissime favori pour la victoire d'étape ici à Berne.
Alors que Jérôme Pinault nous a rejoint rasé de près, je parle du crâne, il est magnifique. Bah oui, il fait chaud aujourd'hui hein.
Coupe d'été,
on a
d'été.
Fait la coupe d'été. Ça va Gégé, tout va bien?
Ça va, bonjour à tous.
Il a coupé la queue de cheval hein, il arrivait, ouais. on la sentait venir. Il en a pas besoin de la queue de cheval de toute façon sur ce tour hein.
Non, il fait trop chaud là, il fait trop chaud, faut couper au plus court.
Bon Jérôme, on t'a vu tout à l'heure en grande discussion avec Julien Alaphilippe au départ de cette étape hein. Tu connais bien le jeune coureur français, vous avez parlé je crois de l'étape d'hier et peut-être aussi de celle d'aujourd'hui. Est-ce qu'il t'a confié qu'il allait tenter quelque chose aujourd'hui?
Écoute, on a surtout débriefé de ce qui s'est passé hier. Je suis allé voir d'abord Patrick Lefebvre et Bramati, Davidé, qui m'ont expliqué eh bien effectivement qu'il a eu un problème mécanique et que suite à ce problème, Davidé étant derrière le groupe de contre-attaque, il n'a pu il n'a pu le dépanner assez rapidement. Ils étaient très déçus, voire très très déçus même, parce que ils sentaient, comme nous on a senti, que Julien avait largement cette étape dans les jambes. Ensuite Julien est descendu du bus et c'est vrai que j'ai discuté avec lui, il est déçu parce que c'est un problème mécanique qui l'a empêché d'aller chercher cette première victoire sur le Tour de France. On a discuté aussi de sa tactique, de son comportement. Il m'a expliqué que tout simplement il a descendu à son rythme, qu'il avait pris Luchon très vite. Il est très à l'aise en descente, on le sait, c'est un ancien cyclocrossman, donc plutôt agile sur le vélo, et il s'est retrouvé tout de suite avec 15-20 secondes d'avance, et il se sentait capable avec 30-40 secondes d'aller au bout, de faire cette dernière boucle tout seul. En tout cas, c'est vraiment la déception qui prédominait ce matin du côté d'Etix et du côté de Julien Alaphilippe. Pour ce qui est d'aujourd'hui, on a vu Tony Martin descendre très tranquillement du bus. Julien m'avait pas forcément dit qu'ils allaient faire ce genre de numéro. C'est sûr qu'on croyait à une échappée du côté de l'équipe Etix. On imaginait un gros groupe d'une quinzaine, pourquoi pas. Et c'est vrai que là, c'est la surprise. Mais attention à Tony Martin qui, moi, je le connais bien. Je sais qu'il est capable de rouler très longtemps. On a fait parfois des longs stages avec l'équipe Omega Pharma à l'époque. Et Tony était capable de nous mettre un tempo à 40 à l'heure pendant 2, 3, 4 heures sans problème. C'est un coureur qui aime rouler longtemps. Temps et vite, comme le disait tout à l'heure Cyril, c'est dans cette allure-là, il peut aller très longtemps, et c'est pour ça qu'on va s'y mettre à 3-4 équipes pour aller les chercher. Mais je peux vous dire qu'avec 5 minutes d'avance, on ne va pas pouvoir calculer le fameux théorème de Chapat. Il va falloir s'employer pour aller chercher Tony Martin, qui est capable de grands numéros comme celui-là. Et en plus, accompagné de Julien, ça peut aller loin.
Ouais, Julien qui ne prend pas beaucoup de relais, ça ne sert à rien. Il faut laisser la machine à rouler devant. Hein.
Bien sûr, en plus, on est dans la partie de l'étape où c'est un peu moins difficile, des grands bouts droits. Faux plat montant, faux plat descendant. Tony Martin n'a besoin de personne dans ces cas-là. Il est l'un des tout meilleurs rouleurs au monde. Julien servira beaucoup plus la cause de Tony et de ce duo sur le final, qui est un final plutôt escarpé. Mais il est vrai que pour le moment, Tony fait le plus gros du travail, ce qui est logique, c'est les routes qu'il affectionne, et en plus il arrive pas très loin de chez lui puisqu'il réside en Suisse, Tony, donc c'est presque le régional de l'étape.
Au bord du lac de Constance, comme c'était le cas de Jan Ullrich par le passé, notamment, il y a beaucoup d'Allemands effectivement qui viennent à la
petite
frontière.
Anecdote de Tony, c'est que
il vit dans
ce canton qui est très joli, très escarpé, beaucoup de petites routes de montagne, on peut s'éclater en vélo. Et Bert Grabsch, qui était l'un de ses compagnons de chambre, oui, et qui faisait partie de l'équipe Omega à l'époque, nous expliquait que lui aimait beaucoup prendre toute cette petite route montée descente, malgré le fait qu'il soit pas un pur grimpeur, Bert Grabsch, loin de là. Tony il roule sur un national en bas, il fait le tour du lac, il peut faire 2, 3, 4 fois. C'est un coureur qui est capable de se mettre 300 km dans une journée à rouler,
oui,
à 30
à l'heure
sans problème. C'est vraiment, il est à l'ancienne, ex-RDA, il est vraiment Allemagne de l'Est, on fait des bornes, on roule à 35 à l'heure pendant 7, 8, 9, 10 heures, c'est pas un problème pour Tony.
Oui, le lac de Constance que j'ai fait en 3 jours l'été dernier avec mon sac à dos.
4 fois par jour.
C'était bien, c'est charmant, mais effectivement, c'est tout plat et c'est exactement le type de terrain qu'il doit affectionner.
C'est le type de coureur qui est capable de ce genre de choses, et au même type qu'il est capable de faire 4h30 sur son vélo de chrono, par exemple. Il est posé, ça monte, ça descend, c'est pas un problème.
Mais quand on est derrière lui, ça doit pas être facile. Julien aujourd'hui va passer une journée difficile. Hein.
Ah ouais, mais en même temps, Tony, il fait pas d'à-coup. Par exemple, dans un contre-la-montre par équipe, moi je me suis régalé quand j'ai fait les chronos par équipe avec lui. C'est un coureur qui met pas d'à-coup. Il est toujours sur le même tempo. Alors c'est très rapide, il faut pas laisser un mètre parce que sinon on ne rattrape jamais la route. Mais voilà, il est capable, comme peu de coureurs le sont, de rouler très très vite et très longtemps.
Ouais. Alors, est-ce que c'est suicidaire pour toi, Jérôme, cette attaque de si loin, à deux, avec le peloton qui a évidemment des velléités, qui voudra bien mettre l'un de ses sprinters tout à l'heure à l'arrivée. On voit que ça roule derrière, hein, notamment la formation Direct Energy, qui aimerait bien placer Brian Cocquart pour une victoire d'étape.
Ouais, non, c'est pas suicidaire. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est de retrouver Julien avec Tony, parce que le final pouvait lui correspondre. C'était un final pour puncher, pour quelqu'un qui peut éventuellement sortir son son épingle du jeu dans les deux derniers kilomètres qui seront un peu en montée avant de revenir sur le plat pour l'arrivée. Mais c'est pas surprenant, mais c'est loin d'être suicidaire. Je peux vous dire que quand on voit la forme du peloton actuellement, on se méfie énormément de l'attaque de Tony Martin, parce qu'on le sait que Tony est capable de ce genre de numéro. Et d'ailleurs, si c'était suicidaire, ils ont été très très longtemps, les 20-25 premiers kilomètres, à portée de fusil du peloton. On a eu beaucoup beaucoup de contre-attaques. Personne n'a réussi à combler ces 40 secondes. C'est dire si on a bien insisté du côté de Tony Martin, et si on a insisté, c'est qu'on y croit. Sinon, la voiture l'aurait ramené à la raison, lui aurait dit « Écoute, Tony, ça sert à rien. Pour le moment, tu vas pas tout faire tout seul. » Quand Tony Martin se lance dans ce genre d'entreprise, tout le monde est sur le qui-vive, et on peut y croire, parce que finalement, on le sait, Tony est quelqu'un qui peut réaliser encore une fois ce genre d'exploit.
Bon, il reste encore 102 kilomètres à parcourir pour les deux hommes de tête et pour le peloton qui est en file indienne d'ailleurs, Fred, hein. Ça veut dire que ça roule à vive allure là aussi.
Oui, oui, les équipes de sprinteurs prennent au sérieux le duo Tony Martin, Julien Alaphilippe, écart stabilisé à 5 minutes. C'est vrai que vous en parliez tout à l'heure, Julien Alaphilippe prend quelques relais, et Georges nous en parlera probablement mieux que moi. Mais l'attitude de Julien Alaphilippe est assez caractéristique, notamment sa cadence de pédalage comparativement à celle de son coéquipier allemand, Georges.
Oui, oui, on voit que Julien Alaphilippe qui pédale beaucoup plus vite que Tony Martin devant lui, qui a un plus gros braquet visiblement dans la roue, en tous les cas de Julien Alaphilippe, ouais.
Vous avez quelque chose à déclarer, monsieur Quirino? Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer?
Oui, parce qu'on est en train attention dans 5, 4, 3, 2, 1, allô, on est en Suisse. Voilà, nous sommes en Suisse pour les coureurs du Tour de France qui sont en train de passer devant les postes douaniers, effectivement, et derrière les deux coureurs de tête avec le Panzer Tony Martin, effectivement, qui a une fréquence de pédalage un peu plus élevée que celle de Julien Alaphilippe.
Très bien, aujourd'hui nous vous offrons un pack de deux places VIP pour assister à l'étape finale du Tour de France. Ce sera dimanche prochain, le 24 juillet, sur les Champs-Élysées. Donc départ de Chantilly, arrivée à Paris sur les Champs, avec au programme l'espace VIP, déjeuner, passage de la caravane et des coureurs sur la ligne d'arrivée. Vous devez être majeur pour y accéder. Pour jouer, c'est maintenant au 7-32-16. Il suffit d'envoyer le mot tour. Bonne chance.
Suivez le Tour de France avec les pneus Kléber, fournisseur officiel du Tour de France.
Qui a dit bonjour aux douaniers? C'est Tony Martin qui a
fait en passant, il a salué les douaniers ou la police. Tony Martin est ancien policier, hein. Il avait tout au début de sa carrière pris un congé sans solde pour voir si finalement il était fait pour le vélo professionnel. Oui. C'est sa première année contrat pro. Il était effectivement encore réserviste et policier. Et puis finalement, quand il a vu que ça marchait pas trop mal pour lui, il a bien fait. Il a continué. Il est parti de la police, mais à la base, Tony est un policier. Pour la petite anecdote, premier stage team building à l'époque de la grande équipe Omega Pharma. On est arrivé en stage, j'étais dans son équipe, dans la petite équipe de 5 coureurs qui faisaient de nombreux ateliers on rampait, on marchait, et Tony avait son uniforme de la police. Je peux vous dire que ça marchait droit. Moi, je suis arrivé là, j'avais peur, j'ai amené mes papiers, j'ai dit tout est en règle, mais ouais, il est très comme ça, très droit. Oui. Il mange beaucoup d'œufs, tout est réglé au millimètre, il y a rien qui dépasse chez Tony. Tous les matin, c'est 6 œufs, un peu de dinde. Le soir, c'est la même chose. On mange toujours la même chose. On s'entraîne toujours pareil. Il a une méthode, il change rien. Et il est comme ça. Tony, mais un garçon charmant.
Ça marche
charmant.
Plutôt pas mal quand même pour lui.
Ça marche plutôt très très bien.
Une force dans les reins impressionnante. Et c'est ce que Julien Alaphilippe doit être en train d'apprécier en ce moment. Et depuis de longs kilomètres maintenant, on vous rappelle la présence en tête de course dans cette 16e étape entre Moirans en montagne dans le Jura et Berne, la capitale suisse, ici sous le soleil, la présence de Tony Martin et de son équipier de la formation ETX Quickstep, le jeune français Julien Alaphilippe, 24 ans, qui est en train de prendre une leçon de contre-la-montre longue distance, on va dire. Julien Alaphilippe qui doit commencer à connaître Tony Martin, dont il est le coéquipier depuis 2 ans maintenant. Julien Alaphilippe qui est davantage un puncher, qui n'a pas du tout le même gabarit que Tony Martin et qui n'a pas les mêmes spécificités, le même coffre, parce que les corps sont simplement faits différemment. Et c'est vrai que le régime alimentaire est assez impressionnant chez Tony Martin. Essayez,
essayez
de manger 6 œufs tous les matins, vous comprendrez.
Bonjour, le cholestérol, hein.
Normalement, voilà, déjà normalement on souffre de cholestérol, mais tant qu'on les dépense, ça va. Normalement, on n'a plus faim de la journée après ça.
Alors la petite particularité.
Ça vaut toute la créatine
il
du
ne,
monde.
Il ne mange que le blanc de l'œuf. Hein.
Donc pas de cholestérol.
Moi, au tout début de
toi, tu bouffes les jaunes, ma... hein.
Que les jaunes.
au tout début de ma collaboration avec Tony et au début avec Sylvain, on a longtemps cherché la basse-cour, hein. On cherchait les poules parce qu'on s'est dit, il y a un truc, il amène des poules, c'est pas possible autrement. Non, il est assez impressionnant là-dessus. Ouais. Très un mangeur d'œufs, notre
un mangeur
Tony.
D'œufs. Ça doit remettre en cause quand même. Vous avez eu un invité il y a quelques jours,
oui, sur l'alimentation.
Qui a écrit sur.
Qui depuis s'est spécialisé dans les affaires de sexe dans le cycle.
Oui, apparemment, tous les jours. Oui.
Ben, ça va peut-être ensemble. Si on lit son bouquin et qu'on regarde ce que fait Tony Martin, j'ai envie de dire mangeons comme Tony Martin, quoi.
Ouais. Ah bah pour la force, ça marche pas mal apparemment.
Évidemment, les protéines.
Comme quoi, il
n'y
a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité même sur l'alimentation.
Très bien. Vous avez des idées pour le titre de l'épisode du jour, messieurs ? Ouh là là, je vois que Jérôme et Fred n'ont pas beaucoup d'idées. Peut-être que notre druide national a réfléchi au titre de l'épisode du jour, Cyril.
Bien, tous les jours, j'en avais une, vous ne me l'avez jamais demandé.
Bah, tu peux nous donner celle des jours précédents, si tu veux.
Attendez, je vais en rechercher une, parce que il y en a une qui me paraissait très intéressante. En plus, elle a duré plusieurs jours, je l'ai gardée. Ouais. Alors, attendez, c'est...
Alors, je vais donner les autres. Réfléchis et retrouve ta proposition, mais on a pas mal de propositions aujourd'hui sur le hashtag RMC Live. Jérôme nous dit le Tour de France en Berne, évidemment.
Ça y est, j'ai retrouvé.
Ah, tu as retrouvé.
Oui.
Bon, tu vas nous la donner. Je vais donner les autres. Sébastien Dupré nous dit un Polac chez les Helvètes. Voilà, le Polac, c'est évidemment le surnom de Julien Alaphilippe, hein, je crois.
C'est son pseudo Twitter, c'est Alaph Polac, en référence à l'ancien champion allemand, l'ancien rouleur Olaf Polac, ancien coureur de l'équipe Gerolsteiner notamment. Voilà pour les avertis.
Ric Cantona nous dit sur le plat Martine comme dans du gruyère. Évidemment, nous sommes en Suisse, pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une échappée réglée comme une horloge. Nous avons aussi Flo qui nous dit Julien va-t-il les berner à Berne, ou encore Alaphilippe met les pendules à l'heure. C'est Rémi qui nous propose ça, et Victor nous dit les sprinteurs vont-ils se faire berner. Voilà les principales propositions. Vous n'hésitez pas, hein. Vous avez encore quelques minutes pour nous donner vos propositions. Je crois que Georges, qui a réfléchi sur la moto malgré le soleil et cette longue étape, a un titre. Georges.
Mais moi je l'ai depuis le départ, avant même les tweetos, tu l'as un peu donné, donc je suis effondré. Moi je voulais dire Quickstep les a bien bernés, quoi, aujourd'hui.
Ouais, bah on verra si ça va au bout, effectivement. Cyril.
Oui, non, je n'ai rien là. Mais je peux vous donner une qui a quand même fait 4 jours.
Ah oui, alors vas-y.
Un titre qui était. Vous vous souvenez de ce.
Tu vas finir hors délai, Cyril, hein, vas-y.
Bon, ben j'arrête tout de suite.
Non, mais elle a duré 4 jours et là, vas-y.
Oui, ben non, mais ça y est, elle est terminée.
Voilà,
oui, vous souvenez du roman de John Steinbeck qui a été publié en 1939.
Les raisins de la colère.
Les raisins de la colère. Mmh. Voilà, tout à fait. Et donc, en référence à ce roman, j'avais donné comme nom aux différentes étapes qui sont succédées les vents de la colère.
C'est vrai qu'on a eu quand même le Mistral et les autres vents pendant 4 jours sur la route de ce Tour de France, et qui a joué des tours à certains, dont Nairo Quintana. Fred, tu as
pas un pet de vent aujourd'hui sur la route.
La colère
tour.
Est tombée.
Oui, la colère est tombée, mais je vois bien un homme en colère quand même, et ce sera Fabian Cancellara.
Spartacus.
Telle une horloge à Berne. Pile à l'heure. Lui qui est originaire de la cité dans laquelle le Tour de France arrive aujourd'hui. Fabian Cancellara, 35 ans, quasiment invisible depuis le départ de ce Tour de France 2016, qui vit son dernier Tour de France, qui tirera sa révérence à la fin de la saison, et pour qui le final semble parfaitement tracé aujourd'hui. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler.
Exactement. Merci donc pour vos propositions. N'hésitez pas. Il y a encore un peu de temps. Je suis sur le hashtag RMC Live. Vous me faites vos propositions. Fred, 96 km de l'arrivée. On va faire un top course, et ensuite on va s'arrêter prendre un petit bidon, hein, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui.
96 km à parcourir. Ça y est, le peloton sur les routes helvétiques. On a passé la frontière il y a quelques instants aux Verrières de Joux, sur le plateau de Joux. Grand soleil aujourd'hui et grand soleil pour les deux hommes de tête, Tony Martin et Julien Alaphilippe, deux coéquipiers de la formation ETX Quickstep. Attention, leur avance est en train de diminuer un peu. Les équipes de sprinteurs et notamment les Lotto Soudal ont réagi à l'avant du peloton. On est à 96 km de l'arrivée à Berne et l'avance du duo Tony Martin, Julien Alaphilippe est désormais de 4 minutes.
Parfait, on se retrouve dans quelques instants sur la route du Tour, donc pour les 100 derniers kilomètres de cette magnifique étape sur les routes suisses. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Et il reste encore 92 km 500 à parcourir dans cette 16e étape du Tour de France qui conduit le peloton vers Berne, la capitale fédérale de la Confédération helvétique. Nous sommes en Suisse depuis quelques minutes pour les coureurs du peloton et pour les hommes échappés à l'avant. Nos deux échappés de la formation ETX Quickstep, Julien Alaphilippe, le français, et l'allemand Tony Martin, qui ne compte plus désormais que 3 minutes 51 d'avance, car derrière le peloton a décidé d'accélérer après le ravito, Fred, et là ça roule très vite et l'écart qui est en train de fondre en faveur du peloton d'ailleurs.
Oui, tu l'as dit, 3 minutes 50, 92 km à parcourir, le duo Martin à la Philippe sur des routes toutes plates, ensoleillées dans le canton de Neuchâtel, en direction justement du lac de Neuchâtel qui sera longé pendant une grosse dizaine de kilomètres. A priori, ces deux hommes seront toujours à l'avant de la course lorsque la course ralliera le très joli et très ensoleillé lac de Neuchâtel aujourd'hui. 3 minutes 50 à l'avant du peloton. Les Cofidis de Christophe Laporte, les Katiusha d'Alexander Christophe, les Direct Energy de Brian Coquard ou encore les Fortuneo Vital Concept du Britannique Daniel Maclay roulent pour revenir sur les deux échappés et pour permettre aux sprinteurs de s'expliquer tout à l'heure dans Berne. Mais il faudra leur dire à ses équipiers de sprinteurs que le final est particulièrement tortueux et qu'il serait étonnant de voir des purs sprinteurs arriver ici à Berne devant le Berne Expo pour la victoire d'étape, parce qu'il faudra être habile, il faudra être très bon puncher, parce qu'il y a des côtes dans les tout derniers kilomètres et il y a également une portion pavée, probablement un clin d'œil à Fabian Cancellara, Spartacus, qui en termine avec sa carrière et qui est en train de vivre ses dernières heures, ses dernières centaines de kilomètres sur le Tour de France. Il a là un terrain parfaitement à sa convenance.
Et on va en parler tout à l'heure de Fabian Cancellara, ce sera le terme de notre débat avec nos confrères du Parisien, David Opozinski, qui va nous rejoindre dans quelques instants. D'autres idées pour le titre de l'épisode du jour. Christophe nous dit Alaphilippe se réconcilie avec le druide. On l'espère, évidemment, ça voudrait dire qu'il remporte cette étape. Et puis Yemou, qui je pense doit être citoyen suisse, nous dit et les gars, vous n'avez pas autre chose que des clichés sur nous pour les titres, vous avez oublié les banques, avec un petit sourire. Évidemment, c'est vrai qu'on est en Suisse, donc on fait des blagues sur les Suisses. Bah oui, mais on se régale, c'est magnifique la Suisse, c'est sublime. Moi je connaissais pas ce coin de la Suisse.
On aurait pu faire un titre qui va faire sauter la banque.
Oui, évidemment, peut-être Spartacus en personne. On va en parler dans quelques instants, mais auparavant on va peut-être faire un petit coup de musette. Ben oui, c'est l'heure de la musette, la
ravito
musette du jour. Et oui, c'est l'heure du ravito, c'est l'heure de la musette et des petites infos glanées de ci de là par nos reporters.
RMC Intégral Tour, la musette.
Alors je sais pas comment il a fait pour glaner une musette celui-là, parce qu'on a quand même des images régulières tous les jours
compromettantes
en train de faire une sieste incroyable de plusieurs heures. C'est notre Marseillais.
Ah bah oui.
Notre Yann Pécheral.
Vous êtes mauvais. Bonjour messieurs. Salut à tous.
Combien elle dure la petite sieste dans la voiture?
C'est des micro-siestes. Ce sont des micro-siestes. J'ai fait les mêmes, que je sois au volant ou sur le passager, c'est pas.
Tout comme il est sur de la micronutrition depuis le départ du Tour, on est sur de la micro-sieste.
Il n'est pas sur des micro-desserts en tous les cas, ça je peux vous le confirmer. Ça va Yann?
Ça va très bien.
Donc requinqué comme jamais, évidemment,
ouais,
pour l'arrivée tout à l'heure, ouais, tu vas aller recueillir les impressions et les réactions des différents acteurs. Alors Yann, entre deux siestes, t'as donc pu quand même récolter quelques informations. Tu vas nous parler de quoi?
Nous étions ce matin avec Georges Quirino El Chiquito au niveau des bus et nous nous sommes intéressés à la journée de repos qui est demain. Et puis rapidement, avec certains directeurs sportifs, sur le ton de la plaisanterie, et certains managers généraux d'ailleurs d'équipe française, on en est arrivé à parler de la vie sexuelle des coureurs lors de la journée de repos.
Jérôme n'est pas là.
Et alors, tout n'est pas racontable, hein, bien entendu. On ne peut pas tout dire, mais nous avons entendu des informations et rapidement le nom de Cyril Guimard est arrivé.
Oh, 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 oh.
Et attention, parce que d'anciens coureurs nous ont dit Cyril Guimard, à l'époque, nous fliquait, il nous surveillait, il regardait tout ce qu'on faisait lors des journées de repos, et il faisait attention justement et qu'il n'y ait pas de...
Regardez.
Que les coureurs ne fautent pas justement. Non, ne regardez pas, mais il faisait attention à ce que les coureurs ne fautent pas lors des journées de repos. Les mœurs ont changé aujourd'hui, c'est un petit peu plus...
Mais à l'époque les femmes, les compagnes ne venaient pas sur les journées de repos, Cyril, ou pas beaucoup.
Je ne vous entends pas. Vous pouvez répéter, j'ai un problème de relais.
Il passe sous un tunnel.
Je rentre sous un tunnel.
Est-ce que c'est vrai que tu fliquais?
Est-ce que tu étais le Giroud du vélo, Cyril?
Oh non, faut pas exagérer. Non, il fallait quand même faire attention, hein. Les coureurs couchaient à deux par chambre, donc ça pouvait vite dégénérer.
Cyril Guimard qu'on a aperçu hier soir en se couchant après minuit, hein, sur une chaîne câblée à l'hôtel. Ça fait toujours plaisir de s'endormir avec Cyril sous les yeux.
N'importe quoi, ça part complètement au queue nous, cette histoire. C'est la troisième semaine, messieurs.
On n'avait pas trouvé de soirée coquine, donc
Ah oui, t'as pas trouvé de...
Non, mais
d'habitude pour Jérôme Pinot
aujourd'hui. D'habitude c'est Jérôme qui les cherche, mais...
Laissez-moi en dehors de tout ça.
Je ne suis pas concerné. Jérôme, tu peux nous raconter ce qui se passe dans les journées de repos?
Faut demander à Pierre Carré, c'est lui le spécialiste.
Oui, mais bon, toi tu as vécu, tu as été acteur de ce Tour de France.
De
plusieurs Tours de France, de ce Tour de France en général.
Non, c'est vrai qu'aujourd'hui les femmes sont les bienvenues sur le Tour. Il y a même des coureurs dont les femmes les suivent sur 7, 8, 10 jours.
En caravane.
En camping-car ou même à l'hôtel, ça ne pose plus de problème. Je crois que c'est à l'époque même de l'équipe, la grande équipe Festina, qui a un peu commencé à mettre en place ce genre de choses, surtout sur les stages. Quand on part très longtemps préparer le Tour de France, les coureurs pouvaient emmener leurs femmes. Ça a été une vraie révolution dans le vélo. Tout comme on a beaucoup de plus en plus de soigneuses, de masseuses, de kinés dans les équipes. Rappelez-vous Marc Madiot qui était un fervent défenseur de tout ça et qui disait que les femmes n'avaient pas grand-chose à y faire. Finalement, aujourd'hui, dans le staff de la FDJ, on y retrouve beaucoup de demoiselles, beaucoup de kinés. Et voilà, les temps changent, les mœurs se changent aussi. Et c'est une vraie évolution pour le vélo. Et je vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir nos femmes. Je crois qu'on est des grands professionnels. Et le coureur sait très bien ce qu'il a à faire, notamment sur la journée de repos.
Mais on est revenu d'ailleurs sur cette idée qu'il ne fallait surtout pas avoir de relations sexuelles au moment de grandes épreuves sportives, à la veille d'un grand match, à la veille d'une étape du Tour de France.
Scientifiquement, on est d'accord, Cyril, c'est bon, ça fait monter le taux de testostérone d'avoir un rapport sexuel.
Alors il y a plusieurs théories. Puis
on est à l'heure de Brigitte Lahaye, vous. Hein,
c'est ce que j'allais dire. On va appeler Brigitte. Là.
Voilà, c'est ça. Ben, on la remplace aujourd'hui. Oui, il y a d'ailleurs des actes sexuels qui se font juste avant des compétitions. Et entre autres, les compétitions de très courte durée.
Et là, on entre dans les détails et c'est là que ça devient intéressant.
Vas-y, c'est là que ça devient... Brigitte, vous êtes d'accord? Et effectivement, le fait d'avoir une excitation sexuelle juste avant un effort va, indépendamment du taux de testostérone qui va monter, il y a aussi le stress qui va disparaître, le mauvais stress. Et puis le fait d'être bien, fait qu'on est plus performant, par exemple sur un 100 mètres, un 200 mètres ou un 400 mètres en athlée, en natation c'est également pratiqué. Mais là c'est dans l'heure qui précède, quoi. Hein.
On va remercier Yann, hein, Yann Pécheral, de nous avoir mis sur ce dossier. Sa musette était de tout repos,
Je pense que c'est la musette qui t'a le plus intéressé du tour.
J'ai pas décroché.
J'ai un grand sourire
sur cette musette, j'ai pas décroché. Merci messieurs.
Merci donc pour cette parenthèse.
Oui, oui, l'émission n'est pas finie.
Non, je sais que tu peux en parler pendant 4 heures de ça. Hein. Cyril qui s'est penché sur la question à de nombreuses reprises en tant que coureur, directeur sportif, consultant, suiveur, bref. Il sait tout des mœurs sexuelles du peloton et pas que du peloton. La musette continue. Allez, on va passer la parole à Georges. À Georges ou à Pierre-Yves?
Non, si vous voulez quelque chose de sérieux, passez plutôt à... à moi.
D'accord. Nous passons donc à vous, monsieur Pierre-Yves.
On va revenir sur des.
Moi, j'aime bien l'accordéon.
Ah oui, ça c'est important.
Oui, enfin, c'est pas toujours ceux qui en parlent le moins quand.
Ouais. Hein, ah, d'accord.
Ils n'en font pas le plus.
Monsieur Pilou.
Bonjour, monsieur Pilou.
On va parler de Jérôme Coppel.
Ah.
Jérôme Coppel, puisqu'il y a eu un petit écho dans la presse ce matin, nous disant que à l'approche de la trentaine seulement, il pensait éventuellement à terminer sa carrière, à quitter le peloton. On sait qu'il est dans une équipe IAM qui s'arrête à la fin de l'année. Donc on est allé le voir, lui poser la question ce matin. On sent bien que l'enthousiasme, même s'il dit que ça se passe bien sur de France, que l'enthousiasme n'est plus trop là, mais il n'a pas voulu donner de réponse définitive. On l'écoute, Jérôme Coppel.
Si ça devait arriver, ça serait quelque chose de réfléchi, donc ça serait pas si soudain que ça. Maintenant, j'ai beaucoup de propositions, donc j'attends de voir, il n'y a rien de fixé encore. Avec le ski et le vélo, ça fait presque 15 ans que je suis au niveau, donc ça fait quand même la moitié de ma vie, donc voilà, c'est pas facile. Hein. Après, il faut que le corps suive, il faut que tout ça aille aussi, donc il y a la motivation, le projet de l'équipe, voilà, mes jambes, le plaisir, il y a beaucoup de trucs à regarder, donc voilà, je réfléchis à tout ça et on verra. Il y a d'autres petits pépins de santé que j'ai en ce moment, donc voilà, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais j'en parlerai en temps et en heure.
Voilà, il va sûrement revenir sur cette question dans les jours qui viennent, pourquoi pas la journée de repos d'ailleurs de demain. Il y a toujours des annonces la dernière journée de repos. On parlait de Thomas Vauclair éventuellement, on verra si il se passe des choses également
demain.
De ce côté-là.
Ouais, ouais.
À suivre donc, mais peut-être que la carrière de Jérôme Coppel est presque terminée.
C'est rare d'avoir des arrêts de carrière à 29 ans seulement. Vous dites que Jérôme va revenir sur ses propos, va revenir sur cette question. Il peut aussi revenir sur sa décision avant la fin de la saison et pourquoi pas observer un break. C'est rarissime, les breaks dans le cyclisme. On peut envisager comme ça de laisser tomber le vélo pro à 29 ans et de revenir à 31-32. Jérôme par exemple, Cyril, as-tu déjà connu ce genre de situation? Jérôme d'abord.
Non, je pense que moi c'est la... J'ai jamais entendu parler d'un coureur qui prend sa retraite à part Armstrong et peut-être oui, Cipollini qui était soi-disant en retraite et qui est revenu, mais pour courir surtout dans cette marque américaine aux États-Unis principalement.
Rock Racing.
Honnêtement, je connais très très bien Jérôme. S'il prend cette décision, je pense que, comme il le dit, elle est très réfléchie. Jérôme est là depuis très longtemps. Il a subi quelques mauvais moments dans sa carrière, de graves chutes, des moments plus difficiles en interne, en privé aussi. Donc je pense que Jérôme est à la croisée de quelque chose et c'est quelqu'un qui prendra la bonne décision, c'est sûr. Comme il le dit, il a été aussi skieur à très haut niveau, donc ils sont sans arrêt partis aussi, ces skieurs. Et donc c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti moi ces deux dernières années aux côtés de Jérôme, c'est son ras-le-bol d'être parti. Et quand on prend sa retraite, et comme moi je l'ai pris, c'est d'abord ça, d'abord pour parce qu'on en a marre d'être parti, parce qu'à la maison on a envie de passer du temps avec femme et enfants.
Mais est-ce qu'on en passe plus une fois la carrière arrêtée, Jérôme?
Appelez Madame Pinot, vous verrez ce qu'elle va dire. Non, c'est sûr que l'hiver qui suit, on passe beaucoup plus de temps et on reprend une vie normale, mais la passion et le besoin de se reconvertir, hein, c'est clair qu'on n'arrête pas comme ça, il faut avoir un projet derrière. Moi j'ai arrêté en sachant que j'allais pouvoir préparer ce diplôme de manager, que éventuellement je pouvais travailler avec quelques médias pour continuer à assouvir ma passion, rester dans le milieu. Si Jérôme a réfléchi à tout ça, et je pense qu'il a réfléchi à tout ça, il est très bien encadré, son agent Philippe Rimbaud le conseille aussi beaucoup, donc voilà, je pense qu'il prendra une décision, mais concernant Jérôme, je pense qu'il n'y aura pas de comeback. Quand il aura décidé d'arrêter, il arrêtera.
Je vais jeter un petit pavé dans la mare et vous ne m'en voudrez pas. Jérôme Coppel est apparu dans un reportage quelques jours avant le départ du Tour, un reportage sur France 2, c'était Cache Investigation, l'émission, et Jérôme Coppel a été piégé par une journée liste de Cache Investigation. C'était une enquête, on le rappelle, sur le docteur Mabuse, qui selon certaines sources est toujours en activité dans le peloton cycliste professionnel. Est-ce que le fait d'avoir été un peu dans l'œil du cyclone peut peser dans ce type de décision? Est-ce que se sentir piégé, trahi, se sentir décrédibilisé peut-être, peut pousser à prendre ce type de décision?
Non, parce que Jérôme a très bien réagi à ce reportage. Jérôme est a été contacté par aussi de nombreuses équipes. C'est dire si on en tient pas rigueur dans le milieu. Ce sont des vieilles histoires, vous savez, avant le Tour de France, on a toujours besoin de faire le buzz avec quelque histoire que ce soit. Il y a d'autres coureurs qui ont été incriminés dans ce reportage. Je pense pas qu'il soit gêné aujourd'hui ou travailler par ce genre de choses. Je crois qu'il est d'abord à la quête de la performance. Il a connu le très très haut niveau et peut-être à la recherche de grandes sensations. Il est plutôt dans une bonne période en ce moment. Il a quelques résultats. Il veut peut-être tout simplement arrêter au bon moment. Et voilà, je pense pas que ce reportage n'ait fait de mal à Jérôme et qu'il soit à la base de cette décision là.
Tiens, une information qui tombe à l'instant même, elle concerne les Jeux Olympiques. Vous savez que Thibaut Pinot c'est ta musette. Un petit coup d'accordéon alors. La musette de Jérôme concernant justement les Jeux Olympiques.
Elle est plus très fraîche puisqu'elle est sur les réseaux sociaux
depuis
effectivement
quelques minutes.
J'ai croisé Bernard Marie ce matin, l'organisateur du Grand Critérium de Dijon, qui tout simplement cherchait un remplaçant à Alexis Vuillermoz, parce que Alexis Vuillermoz est officiellement le remplaçant de Thibaut Pinot aux Jeux Olympiques. Il est le quatrième homme qui fera partie de cette équipe de France, donc Alexis ne pourra pas participer au Critérium de Dijon, il sera à Rio.
Et comme on le disait derrière la ligne d'arrivée hier avec Alexis, c'est sans doute hier qu'il est allé chercher.
Ah oui, on se posait la question.
C'est bien la preuve que Bernard Bourreau s'est passé sur une journée.
Voilà, je vais regarder l'étape et je vais voir ce qui se passe et ensuite j'irai voir les garçons.
Qui nous disait justement hier que ça allait pas jouer sur, c'est Cyril qui nous disait ça. Bah tu vois finalement.
Non, vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites. J'ai dit que c'était anormal qu'on dise sur un jour précis la sélection elle se fait aujourd'hui.
C'est
en termes de philosophie. C'est pas ce que. Ne déformez pas mes propos.
Non mais de toute façon c'est assez logique hein, cette sélection d'Alexis Vuillermoz.
Non mais mon propos n'était pas de dire que c'était logique ou pas illogique. Ce que je trouvais anormal, parce que quelque part si vous allez au bout du raisonnement. Vous êtes le sélectionneur national et à un moment vous dites c'est aujourd'hui que je fais la sélection. Et imaginez que la stratégie de l'équipe ne permettait pas par exemple à Vuillermoz de bouger pour X raisons. Ça veut dire que d'un seul coup on fait de l'ingérence dans la stratégie même de l'équipe, parce que d'un seul coup au lieu d'être sur le Tour de France, il va falloir qu'on qualifie notre coureur pour les Jeux. C'est dans ce sens que je l'ai dit.
Ouais non mais tout à fait Cyril, mais je pense que il y avait aussi une date butoir à donner pour le nom du remplaçant, que hier l'étape était accidentée voire montagneuse et qu'elle correspondait quelque part au parcours, au profil proposé aux coureurs lors des Jeux Olympiques de Rio. Donc Bernard a attendu un peu de voir comment étaient ces coureurs, que ce soit devant ou derrière. Effectivement, Alexis, en ayant remporté le test event l'an dernier, en montant en pression sur ce Tour de France, en ayant fait une très belle étape hier, il était en plus en compagnie de Pierre Roland dans cette échappée. On a vu que Warren Barguil a été vite en difficulté hier, donc décision logique finalement de la DTN et de Bernard Bourreau de sélectionner Alexis Vuillermoz.
Voilà, Alexis Vuillermoz qui accompagnera donc Julien Alaphilippe, Romain Bardet et il m'en manque un, le quatrième homme, et Warren Barguil, exactement. Aux Jeux Olympiques de Rio dans quelques semaines, donc pour cette épreuve de course en ligne avec un profil assez particulier hein, puisque ce sera assez montagneux hein, Fred, hein, cette épreuve olympique.
Oui, c'est quasiment sans répit à part sur Copacabana. C'est un circuit très très exigeant et c'est pour ça qu'Alexis Vuillermoz s'était imposé, lui le petit gabarit de l'équipe AG2R la mondiale. Je crois qu'il avait devancé Thibaut Pinot.
Il y avait, faut le dire aussi, il n'y avait aucune opposition. Les Français étaient
les seuls
place,
à jouer le jeu en fait.
Ouais, ouais. Romain Bardet, je crois, qui avait fait deux ou trois, et Serge Powells complétait le podium. Il me semble que c'est ça le podium du test event.
Ok, voilà, on va s'interrompre quelques instants. La musette, on la fera un peu plus tard. On la poursuivra avec Georges, mais on me dit qu'il est sous un tunnel, donc pas de musette possible sous le tunnel. Et puis dans quelques instants, David Opozinski pour notre petit débat de l'après-midi concernant justement Spartacus, Fabian Cancellara, qui arrive chez lui tout à l'heure à Berne et qui a bien l'intention d'aller chercher la victoire d'étape. Fred, un tout petit point quand même sur la course avant de se quitter. L'écart qui est en train de se réduire assez sérieusement maintenant, malheureusement, pour les deux hommes de tête, Martin et Alaphilippe.
Oui, le peloton du Tour de France sur les routes suisses à la sortie du canton de Neuchâtel dans plusieurs dizaines de kilomètres maintenant, toujours donc à l'approche de Neuchâtel. 78 kilomètres à parcourir. Les deux hommes de tête sont coéquipier au sein d'une même formation, l'équipe Etix Quickstep. Il s'agit de Tony Martin, l'excellent rouleur allemand, ancien triple champion du monde du contre-la-montre, et donc Julian Alaphilippe, son jeune coéquipier tricolore. 78 km à parcourir, et leur avance qui était tout à l'heure de 6 minutes n'est plus que de 3 minutes. Les équipes de sprinteurs veulent faire triompher l'un des leurs ici à Berne, capitale helvétique. Grand spectacle pour l'arrivée de cette 16e étape, car les routes sont particulièrement escarpées, tortueuses. Une arrivée très technique ici à Berne.
Et on se retrouve dans quelques instants sur la route du Tour à 78 km désormais de Berne, la capitale de la Suisse. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
76 km encore à parcourir dans cette 16e étape du Tour de France en direction de Berne. Le peloton qui est entré sur le territoire suisse il y a de cela quelques minutes maintenant et qui est toujours sous un chaud soleil. On va faire un petit détour par la moto justement pour que Georges nous raconte ce qui se passe à l'avant de la course, avec toujours deux hommes en tête, mais leur avance continue de fondre. Il faut dire qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, Georges, sur les routes du Tour.
Exactement, il fait près de 30 degrés depuis le départ de cette étape tout à l'heure à Moiran en montagne. Chaleur toujours importante depuis que l'on est rentré en Suisse il y a quelques minutes. Maintenant, au contact des deux hommes de tête, dont l'écart avoisine maintenant les 3 minutes pour Tony Martin et Julian Alaphilippe, les deux coureurs de l'équipe Etix Quickstep. Tony Martin qui nous livre un contre-la-montre aujourd'hui depuis le départ. C'est lui qui assure les plus gros relais et il passe devant nous à l'instant, s'est arrêté pour les voir repasser. Il a les coudes sur le guidon avec ce casque qui ressemble à un casque de contre-la-montre. Julian Alaphilippe bien calé dans sa roue, et il me semble, j'en suis sûr à 90%, hein, que Tony Martin a même aujourd'hui pris une tenue de contre-la-montre, Christophe, parce que on se fait la remarque avec Marco tout à l'heure, ils n'ont pas le même bleu, Tony Martin et Julian Alaphilippe, ils n'ont pas exactement la même couleur de maillot, et effectivement j'ai bien l'impression qu'il est en combinaison, Tony Martin, la combinaison la plus légère, intégrale, donc sans cuissard, la combinaison pour Tony Martin qui aujourd'hui visiblement a mis tout ce qui pouvait l'aider à aller le plus vite possible, avoir la meilleure pénétration dans l'air pour l'allemand, le Panzer, qui est vraiment en mode contre la montre aujourd'hui jusqu'à Berne avec Julian Alaphilippe dans sa roue.
Ouais, tu confirmes?
Oui, c'est bien vu, c'est très bien vu. Il a l'habitude, comme d'autres coureurs d'ailleurs, d'enfiler la combinaison de contre-la-montre. Les sprinteurs ont l'habitude de faire ça depuis quelques années maintenant. Nasser Bouhanni ne court plus qu'en combinaison, pas seulement sur les contre-la-montre. Parfois, il fait des étapes de 220-230 km en combinaison. Les combinaisons qui désormais possèdent une petite poche pour mettre un peu de ravitaillement. Les coureurs qui sont en combinaison, en général, sont ceux que l'on vient ravitailler et qui n'ont pas besoin de mettre des bidons sous le maillot, de charger les poches. Effectivement, Tony Martin qui se livre là un long contre-la-montre.
Très bien, merci pour ces informations. Tout de suite, eh bien, nous allons accueillir David Opozinski, notre confrère du Parisien, qui nous rejoint dans notre camion. Salut David.
Bonjour à tous.
Nous sommes en territoire suisse et nous allons parler de l'un des plus illustres coureurs suisses du peloton, un certain Fabian Cancellara, puisqu'on arrive, hein, Fred, on le rappelle tout à l'heure sur ses terres. Je crois qu'il habite à 4 km de la ligne d'arrivée, Fabian Cancellara, dont on sait aussi qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison au terme d'une carrière incroyable. On rappelle un peu son palmarès, Fred, vainqueur de Paris-Roubaix, du Tour des Flandres.
Oui, trois Paris-Roubaix au palmarès, trois Tours des Flandres, un Milan-San Remo, quatre fois sacré champion du monde du contre-la-montre. Il a remporté sept étapes du Tour de France. La dernière, c'était en 2012. Fabian Cancellara, surnommé Spartacus, aussi bien réglé qu'une horloge suisse, lui qui nous vient de Berne et qui, eh bien, en voyant le tracé du Tour de France, a dû se dire bon allez, ouais, j'ai pas forcément envie d'y aller sur le Tour, c'est très exigeant, c'est 3 semaines de course, mais ce serait un beau clin d'œil pour dire au revoir à tout le monde.
Alors David, c'est vrai que c'est un formidable champion, mais un champion dont l'image a été quelque peu ternie par cette rumeur qui l'accompagne depuis quelques années maintenant. On se souvient de son accélération dans le Tour des Flandres, hein, je crois, Fred, oui. Et on l'a longtemps soupçonné d'avoir utilisé ce jour-là un moteur. Évidemment, rien n'a jamais
été prouvé.
Non, c'était dans le mur de Gramont. Effectivement, il avait déposé littéralement Tom Bonnen, son grand adversaire. Hein, Tom Bonnen et Fabian Cancellara ont le même âge et se sont ont marché sur les mêmes plates-bandes pendant une décennie. Effectivement, une semaine plus tard sur Paris-Roubaix, il y avait encore une image qui était assez saisissante. Fabian Cancellara avait certes cette faculté d'accélérer, d'attaquer en restant sur la selle, mais les images étaient troublantes et c'est vrai qu'il est un peu l'homme par qui le scandale est arrivé, David.
Alors David, quelle image on garde de Cancellara? Est-ce que le soupçon est toujours sur lui aujourd'hui?
C'est malheureux pour lui, mais effectivement, on a tendance presque à associer maintenant son nom à cette affaire. C'est rappelé régulièrement dès qu'on parle des moteurs, et Dieu sait si on en parle beaucoup sur ce tour. Je crois que c'est Greg LeMond aujourd'hui dans l'équipe qui en remettait aussi une petite couche. Voilà. Alors que par ailleurs, ça reste quand même un personnage du cyclisme.
Ouais, considéré un peu comme le patron du peloton pendant quelques années. Ouais.
Oui. Alors symboliquement aussi, vous parliez de son arrivée ici dans sa ville et le Tour de France lui a rendu une sorte d'hommage. En tout cas, c'est lui la façon dont il perçoit les choses, parce que cette arrivée d'étape, il y avait deux chemins pour arriver dans le centre, enfin à Berne où nous sommes, et il y a un petite partie pavée de la route dans le final. Et quand il arrive
Paris-Roubaix, évidemment, le Tour des Flandres.
Voilà. Il y voit un hommage du Tour et de l'organisation du Tour à sa carrière. Voilà. Et par ailleurs, on discutait avec Steve Morabito de la FDJ, le Suisse de la FDJ, hier de ce que représentait Fabian Cancellara pour les Suisses, et lui en tout cas souligner l'importance qu'il aura eu dans le dans le mouvement cycliste suisse, puisqu'il dit que beaucoup de jeunes ont commencé le vélo grâce à lui, parce que il a suscité des vocations. Voilà, c'est un petit peu les deux aspects.
Jérôme, quelle image toi tu gardes de Fabian Cancellara, celle d'un grand champion ou de ce champion quand même terni par cette histoire?
Non, celle d'un grand champion qui a est arrivé là pas par hasard. Il a été champion du monde deux fois du contre-la-montre chez les juniors, junior 1, junior 2. Il a sans arrêt progressé et Fabien est arrivé au sommet de sa carrière en enfilant les perles sur les classiques. Il faisait partie de ces grands coureurs qui étaient là toute la saison. Il fait encore partie de ces grands coureurs.
C'est-à-dire, il fait les classiques, il fait le Tour de France, il fait les championnats du monde.
Et surtout, il avait un vrai charisme. C'était l'un, comme tu le disais Christophe, l'un des vrais patrons du peloton, au même titre que Tom Bonnen l'était. Et il manquera à ce peloton parce qu'aujourd'hui on a plus de coureurs comme lui capables d'élever la voix. On se rappelle sa dernière prise de position l'an dernier, ou il y a deux ans autour d'Oman, où il faisait tellement chaud que les boyaux pétaient sous les roues des coureurs. C'est Fabian qui avait arrêté la course. Il avait dit on peut pas faire du vélo dans ces conditions-là, c'est dangereux. Et on se rappelle aussi de l'épisode, et nous ça nous avait bien servi avec Sylvain, puisqu'il avait arrêté le peloton sur la route après sa victoire dans le prologue à Liège pour endosser le maillot. Il avait le maillot jaune sur le dos, il a laissé filer, il a perdu son maillot jaune au profit de Sylvain Chavanel parce que la course était rendue dangereuse. Donc c'est un grand monsieur et il faut le saluer. En Suisse aujourd'hui, il est l'égal d'un Roger Federer et des plus grands sportifs suisses.
Cyril, un petit mot?
Ça reste un coureur qui aura marqué presque deux décennies. C'est sûrement l'un des plus grands rouleurs, avec celui que nous avons actuellement d'ailleurs en tête de course, Tony Martin, depuis une douzaine d'années. Ceci dit, il restera toujours un petit doute sur certaines de ses performances, car quand on parle de Paris-Roubaix, il faut savoir que son vélo a disparu dans les 30 secondes et que plus personne ne l'a retrouvé. Et je pense que si et il a raté le coche. Si véritablement il n'avait pas de moteur, il aurait dû demander à ce qu'on fasse de véritables enquêtes scientifiques pour savoir si les performances qu'il avait réalisées, et c'était facile de le prouver, surtout dans la montée du mur de Gramont, il aurait dû lui-même demander effectivement à ce qu'on... À partir du moment où on ne dit rien, on laisse la suspicion, et il n'y a rien de pire que le doute. Ouais.
Georges, un petit mot également sur Fabian Cancellara. Je crois que tu l'as rencontré hier soir ou ce matin, hein? Georges? Bon, Georges n'est pas là, donc...
Il est rentré dans un tunnel.
Il est rentré dans un tunnel, il y a beaucoup
c'est
de
tunnels.
Ah, il est là, il est de retour. Georges?
Oui, on avait perdu le retour. Je voudrais rajouter quelque chose sur Fabian Cancellara. On a eu l'occasion de parler avec beaucoup de monde hier au départ, et notamment Alain Galopin, qui est aujourd'hui son directeur sportif chez Trek et qui l'a connu dès le début, hein, notamment au sein de l'équipe CSC, qui nous disait que lorsqu'il l'avait vu arriver jeune avec Bjarne Riis, qui était le manager de cette équipe à l'époque, ils avaient halluciné lorsqu'ils avaient vu les données physiologiques du garçon après ses premières sorties. ils avaient analysé ça avec Garneris, ils avaient dit oh là là, qu'est-ce qu'on tient là, un coureur ultra puissant qui lui a valu ce nom de Spartacus, notamment de gladiateur. Voilà, donc c'était assez intéressant d'en parler avec Alain Galopin. Michel Teta, le patron de l'équipe IAM également, de l'équipe suisse, nous disait que comme Roger Federer, il restera quoi qu'il arrive comme une icône du sport en Suisse.
Jérôme, 10 secondes.
Non, mais c'est simplement pour dire qu'Alain Galopin aime bien se mettre sous le bras les différents grands champions qu'il a croisés. Rappelons quand même que Fabian Cancellara est arrivé chez les jeunes, chez le très grand Giancarlo Ferretti, à la face à Bortolo, et c'est lui qui l'a façonné et non pas la CSC de Garneris.
Et avant cela, à la Mapei Espoir.
Exactement.
La Mapei Espoir qui était une usine à jeunes champions.
Très bien, merci David d'être venu nous voir. On reparlera peut-être de Fabian Cancellara tout à l'heure s'il parvient à remporter cette étape. En tous les cas, c'est vrai que c'est un grand champion, mais qu'aujourd'hui son image est un petit peu altérée par cette affaire.
Absolument.
Allez, on va se retrouver juste après les infos de 16h. Un tout petit point rapide sur la course, Fred, puisque l'écart est à peu près stabilisé à 3 minutes pour les deux.
3 minutes d'avance à 74 km de l'arrivée pour Tony Martin et Julien Alaphilippe, les deux coéquipiers de Quick-Step, arrivés à Berne aujourd'hui.
À tout à l'heure, juste après les infos.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour.